Bien, ce matin, nous serons dans le livre de Joël. Livre de Joël, alors ce qu'on appelle parfois les petits prophètes, les prophètes mineurs, on s'y intéresse peut-être pas autant qu'on devrait. Et ici, le livre de Joël, alors pour le trouver, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël. Si vous voyez les livres de d'Abdias, Amos, là vous êtes allé trop loin. Si vous voyez le livre d'Ézéchiel, ben vous n'y êtes pas encore. Ézéchiel, Daniel, on connaît plus ou moins bien. Osée, et après le livre de Joël. Joël, chapitre 2, ce matin, et permettez-moi de lire le verset 12, après quoi nous prierons. Joël chapitre 2, verset 12. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » Prie. Oui Seigneur, que nous voulons te remettre ces instants, que tu nous guides, que tu diriges notre pensée, que ta parole pleine de force, puisse faire son effet dans notre cœur, que nous ne restions pas indifférents et que tu puisses être exalté à travers ce que tu feras dans la vie de chacun d'entre nous. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Alors ici, Joël écrit au peuple juif. Il écrit un peu avant la captivité. Le royaume a déjà été scindé en deux. Il y a déjà eu le schisme sous Roboam, le fils de Salomon, où deux tribus sont restées fidèles à la maison de David, avec Roboam, Judas, Benjamin, et les dix tribus du Nord, par la suite qu'on va appeler Israël, sont partis et ont instauré leur propre roi, Jéroboam, sont tombés assez rapidement dans l'idolâtrie. Judas, les deux royaumes du sud, a suivi un peu après dans cette idolâtrie. Et ici, par le prophète Joël, Jésus, Dieu plus exactement, est en train de lancer un appel à son peuple, comme nous l'avons lu dans ce verset 12, à revenir à lui. Il dit, verset 12, « Revenez à moi de tout votre cœur. » Et c'est sur cette question que j'aimerais qu'on réfléchisse pendant quelques minutes ce matin, parce que il est vrai, Joël écrit à des Juifs, il écrit il y a entre 600-700 ans avant Jésus-Christ, et il écrit dans un contexte très particulier. Et nous pouvons dire, c'était pour cette époque, Joël écrivait à des Juifs, nous ne sommes pas Juifs, nous ne sommes pas en Israël, alors c'était bien pour eux à leur époque, mais ceci ne s'applique pas vraiment à nous aujourd'hui. Et d'avoir de tels raisonnements serait faux. D'avoir de tels raisonnements ne serait pas juste en ce qui concerne ce passage et en ce qui concerne tout l'enseignement de la parole de Dieu. Et ce verset 12, et je dirais tout ce chapitre, à des applications pratiques pour nous aujourd'hui. Certes, Joël ne nous écrivait pas, nous, chrétiens de Vernon, au XXIe siècle, et pourtant Dieu a préservé sa parole pour nous aujourd'hui. Et au début du verset 12, quelque chose de très intéressant à relever, c'est que c'est Dieu qui parle. Maintenant encore, dit l'Éternel. Et si nous sommes chrétiens, et quand j'emploie le mot chrétien, je veux parler de ceux qui ont accepté Jésus-Christ par la foi, à un moment donné, qui ont placé entièrement leur foi, confiance en Dieu pour le salut. Si tel est notre cas ce matin, il faut nous assurer que nous écoutons la voix de Dieu. Parce que Israël, à l'époque, écoutait les autres nations, bien des années avant Joël, tout au début du royaume, qu'est-ce que Israël va demander? Ben, le peuple va demander un roi. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient toutes les autres nations autour d'eux, autour qui avaient un roi. Et la nation d'Israël s'est dit, nous voulons être comme toutes ces autres nations, alors nous voulons un roi. Et Israël a bien été aux prises, au lieu d'écouter la voix de Dieu, à écouter d'autres voix. Et Dieu est clair ici que cette vérité, cet appel qu'il lance vient vraiment de lui. Et il fallait que son peuple écoute, parce que son peuple avait pris l'habitude d'écouter tout, sauf la véritable voix de Dieu. Et Dieu, ici, à travers Joël, dit, maintenant, c'est moi qui parle, l'Éternel. Et ce petit mot, encore, c'était loin d'être la première fois que Dieu s'adresse à son peuple. Non, Dieu a bien des reprises, s'était adressé à son peuple, mais il renouvelle cela, et il fallait que Israël reconnaisse que cela vient de Dieu. Et pour nous aujourd'hui, il nous faut faire attention d'écouter la voix de Dieu. Parce que dans notre monde, tellement de voix qui crient pour notre attention, n'est-ce pas? La voix de la famille, les obligations familiales, nous en avons, n'est-ce pas? Mari, femme, enfant, parents, famille peut-être même plus large. Cousins, des autres membres de la famille, qui réclament notre attention, qui réclament certaines choses de nous que nous pouvons écouter, que nous pouvons même par moment le suivre. Et en tant que chrétien, il nous faut avoir du discernement parce que parfois, ce que la famille nous dit n'est pas conforme à la Bible, n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et à ce moment-là, ce n'est pas parce que cela vient de la famille qu'il faut l'accepter, qu'il faut aller dans ce sens, qu'il faut être d'accord, qu'il faut approuver. Non, c'est ce qui vient de la parole de Dieu que nous devons approuver, que nous devons écouter, que nous devons mettre en pratique. Mais aussi, il y a des obligations professionnelles. Vous savez, si on a un travail, on doit bien faire son travail avec honnêteté, avec sérieux. Mais au travail, nous entendons des choses. Au travail, on nous demande de faire certaines choses. Et en tant que chrétien, il faut évaluer. Est-ce que ceci est juste? Est-ce que ceci est honnête? Est-ce que ceci va glorifier Dieu? Parce que ce n'est pas parce qu'on le dit au travail que c'est forcément vrai, que c'est forcément quelque chose que nous devons faire ou que nous devons dire. Et puis, vous le savez, des publicités un peu partout. Certainement, comme ici à l'église, ben, vous recevez dans votre boîte aux lettres des tonnes de publicités, et là, j'exagère, mais pas beaucoup. Des tonnes, littéralement des tonnes et des tonnes de publicités. La télé, l'internet, tout ce que nous entendons autour de nous, à l'école, les appels sont lancés. Et on réclame de nous beaucoup de choses. On nous dit, il faut faire ceci. On nous dit, il faut écouter ceci. Les régimes, n'en parlons même pas. Un jour, ça va être telle ou telle nourriture est bien. L'autre jour, ben non, c'est pas ça. Maintenant, il faut faire ceci. Il faut se priver de telle ou telle chose. Il faut manger plus de tel ou tel aliment. Et au milieu de toutes ces obligations, de tous ces appels, de tout ce qui nous est dit, de tout ce qu'on écoute, en tant que chrétien, il nous faut faire la part des choses. Il nous faut avoir le discernement pour écouter la voix de Dieu. Et la voix de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. D'où l'importance de passer du temps dans la parole de Dieu. Si Dieu est obligé d'appeler son peuple et dire « Maintenant, revenez à moi », c'est parce que Israël avait pris l'habitude de ne pas écouter Dieu, de ne pas passer du temps avec Dieu. À l'époque de Joël et les autres prophètes, on faisait quelques sacrifices. Le temple était encore là, mais c'était une habitude. On le faisait, il n'y avait aucune substance avec cela. Et Dieu dit, bah, attention, attention. Dieu lance cet appel parce que son peuple s'était éloigné de lui et avait pris l'habitude d'écouter d'autres choses que la véritable voix de Dieu. Et posons-nous la question dans notre vie. avec la multitude de nos activités, avec tout ce que nous voyons, tout ce que nous regardons, tout ce que nous faisons dans notre vie, est-il possible que nous avons pris l'habitude, petit à petit, de nous désintéresser de Dieu, de sa parole? Est-il possible que nous n'ayons pas la même ferveur que nous avions autrefois? Est-il possible que nous nous laissons influencer par la voix des hommes et non pas par la voix de Dieu? Israël était dans ce cas de figure. Et Dieu dit, attention, vous vous rendez pas compte, mais voici votre situation. Et ça peut être vrai pour vous aujourd'hui. Dieu nous dit, examinez-vous. Je suis en train de vous parler. M'écoutez-vous. Et Dieu dit, maintenant, écoute, revenez à moi de tout votre cœur. Dieu lance cet appel, revenez à moi, ce qui implique que le peuple s'était éloigné. Le peuple, de par son idolâtrie, de par ses sacrifices sans substance, de par ses habitudes, s'était éloigné de Dieu. Le peuple avait commencé à intégrer des cultes idolâtres. Le peuple a commencé à ressembler aux nations autour. Le peuple a commencé à délaisser la loi de Dieu, à ne plus faire justice, à permettre le péché. Et Dieu dit, cela n'est pas possible. Vous vous êtes éloigné de moi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette idée, revenez à moi, Dieu ne dit pas tout simplement, vous qui êtes très éloignés, vous qui êtes vraiment au loin, vous qui êtes les plus loin, là, revenez à moi. Vous qui êtes un peu éloignés, c'est pas bien grave. Vous qui êtes un peu éloignés, encore un peu de travail à faire, mais ne vous inquiétez pas trop. Non, Dieu lance cet appel de manière générale, revenez à moi, tous, sans exception, qui se sont éloignés. Et nous reconnaissons ceci en ce qui concerne le salut. Ésaïe, lui, il va parler de nous tous qui étions comme des brebis errantes, n'est-ce pas? Tous, nous étions loin de Dieu avant le salut. Il y avait, certains peut-être sont allés plus loin dans leur péché que d'autres, mais tous, à un moment donné, ont besoin de revenir à Dieu pour le salut. Et dans la vie spirituelle, c'est pareil. Peut-être certains chrétiens sont plus proches de Dieu. Peut-être certains se sont éloignés un peu. Peut-être d'autres se sont vraiment éloignés de par leur vie, de par leurs attitudes, de par leurs paroles. On reconnaît que telle ou telle personne est là, elle est vraiment loin de Dieu. Et elle a besoin de revenir à Dieu. Mais Dieu ne fait pas cette distinction. Il lance cet appel pour tous ceux qui se sont éloignés, que ce soit de près ou de loin. Et je pourrais me réconforter en me disant, je ne suis pas trop loin de Dieu. Peut-être que je ne suis pas aussi près que je pourrais être, mais je ne suis pas trop éloigné. Un autre, tel ou tel frère, telle ou telle sœur, telle ou telle personne que je connais, alors là, elle est vraiment loin. Et comparée à elle, moi, je suis tranquille. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Dieu parle à notre propre cœur. Et Dieu va s'occuper de cette autre personne. Notre devoir, c'est de nous examiner nous-mêmes et de voir, me suis-je éloigné de Dieu? Et si je me suis éloigné de Dieu, ne serait-ce qu'un centimètre, qu'est-ce qui me fait croire que Dieu accepterait cela? Si Dieu ne peut pas admettre un seul péché dans sa présence, et c'est à cause d'un seul péché que toute l'humanité a été plongée sous la domination du péché et de la mort, comment pourrions-nous croire que un peu l'éloignement de Dieu dans notre vie spirituelle, il pourrait accepter? Tel n'est pas le cas. Dieu dit, revenez à moi. Et de se poser sérieusement la question ce matin, peut-être j'écoute la voix de Dieu. Et si vous êtes là ce matin, bah, vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu. Mais quel effet cette parole aura-t-elle? Est-ce qu'elle va nous pousser à revenir vers Dieu? Si nous ne nous croyons pas loin de Dieu, nous ne verrons pas le besoin de revenir à Dieu. C'est simplement ceux qui se rendent compte qu'ils se sont éloignés qui reviendront à Dieu. Et Dieu lance cet appel de manière générale, oui, pour tous, mais aussi de manière individuelle. Moi, je peux mettre mon nom. Robert, reviens à moi. Et vous pouvez mettre le vôtre. Reviens à moi, dit Dieu. Nous avons besoin de nous examiner parce qu'il est tellement facile de nous éloigner de Dieu. Peut-être on continue de l'écouter, mais on s'éloigne de trop. Et on finit, si on s'éloigne de trop, à ne plus pouvoir l'écouter. Et il faut s'examiner. Ai-je besoin de me rapprocher de nouveau de Dieu? Je ne dois pas me réconforter par le fait que d'autres sont plus loin de Dieu que moi. Non, je dois examiner ma propre vie devant Dieu pour voir si je suis aussi proche de Dieu que Dieu veut que je sois. Mais Dieu termine cette phrase en disant « Revenez à moi de tout votre cœur ». Et cette précision, elle est d'ordre capital. Elle est tellement importante parce que quelqu'un pourrait dire « Je me suis approché de Dieu dans tel ou tel domaine. » Dans la prière, je me suis approché de Dieu, pas de problème, je suis à côté de Dieu, je suis avec Dieu. Mais dans la lecture de la parole, ce n'est pas trop ça. Je me laisse encore aller. Je suis encore un peu loin. Et Dieu dit, ce n'est pas suffisant. Il ne s'agit pas juste d'un domaine ou de beaucoup de domaines de notre vie où nous devons nous approcher de Dieu. Mais Dieu dit, revenez à moi de tout votre cœur. Nous ne pouvons pas être près de Dieu dans un domaine et puis loin de Dieu dans l'autre. Soit nous sommes entièrement près de Dieu, soit nous sommes entièrement loin de Dieu. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'être au bout du monde. Très, très éloigné de Dieu. Non, il se peut que nous nous soyons éloignés un peu. Et à ce moment-là, c'est tout notre cœur qui s'est éloigné. Parce que Dieu veut le contrôle sur tout notre cœur. Sur tout. Dieu s'intéresse à tous les domaines de notre vie. Nous pensons surtout aux choses spirituelles. Mais Dieu s'intéresse à tous les domaines. Et il veut que nous soyons près de lui, que nous l'imitions, que nous reflétons sa gloire dans tous les domaines de notre vie. Rien n'est exempté. Aucune exception ici pour dire dans tel ou tel domaine, je peux faire comme je veux. Dans tel ou tel domaine, moi, je fais mon choix, Dieu n'a pas son mot à dire. Telle ne doit pas être l'attitude du chrétien. De dire, je réserve ce temps, je réserve ce domaine, je réserve ce que je regarde, je réserve là où je vais pour Dieu à tel ou tel moment, mais à d'autres moments, ça c'est pour moi. Je fais comme je veux et personne n'a le droit de me dire comment je dois gérer. Dieu dit, revenez à moi de tout votre cœur. Et encore une fois, il ne s'agit pas des autres. Revenez à moi de tout votre cœur. Il s'agit de s'examiner soi-même. Dieu traite avec chacun de nous individuellement. Et c'est individuellement devant Dieu que nous allons devoir rendre des comptes. Et Dieu dit, revenez à moi de tout votre cœur. Et justement, parce que nous rendrons des comptes à Dieu à un moment donné, cela doit nous pousser à revenir à Dieu. Alors, revenez au début de ce chapitre, verset 1, parce que Dieu est en train de parler de cette idée, Il est en train d'appeler son peuple à revenir vers lui, mais c'est dans un contexte assez particulier. Verset 1 de ce chapitre, « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent. » Pourquoi ? Dieu, à travers Joël, nous donne l'explication. « Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » Le jour de l'Éternel, nous connaissons cela dans le Nouveau Testament sous le nom de tribulation. La grande tribulation dont parle l'Apocalypse, c'est ce dont Joël parle ici. Et le jour de l'Éternel vient, il est proche. Alors vous allez vous dire, drôle de choix dans le mot, par Joël, proche. Il a écrit cela il y a presque 2700 ans, cela n'est toujours pas arrivé. C'est pas votre idée de proche, mais ce n'est pas tout à fait la mienne. Quand on dit que quelque chose est proche, cela va arriver. Au mois de juin, Dieu voulant, ma belle-sœur va accoucher de son deuxième enfant. La naissance est proche, n'est-ce pas? L'accouchement est proche. Quelques semaines, quelques mois, d'accord. Mais littéralement des milliers d'années, l'idée de proche, on ne la voit pas. Et c'est parce que cette idée de proche, et certains d'entre vous le savent déjà, cette idée de proche ou bientôt, revêt l'idée que ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est l'idée immanente, à n'importe quel moment. Jésus-Christ pourrait revenir à cet instant. Il pourrait revenir avant la fin de ce message, ou bien il peut attendre encore 500 000 ans, s'il veut. Et ce sera toujours proche, parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Car le jour de l'Éternel vient. C'est une certitude. Un jour, Jésus-Christ reviendra. Vous en êtes convaincus? Un jour, Jésus-Christ reviendra. Et lorsqu'il reviendra, il va examiner. Il va examiner votre vie, il va examiner la mienne. C'est Paul qui en parle. Dans sa première épître aux Corinthiens. Cet examen où nos œuvres seront passées par le feu. Et qu'est-ce qui va rester? Ce qui sera fait pour Dieu va rester. Mais Joël dit, ce jour, il vient. Il y a une certitude et pour ceux qui ne seront pas prêts, ce jour sera un jour de malheur. Nous ne prendrons pas le temps ce matin de lire les versets qui suivent, mais du verset 2 jusqu'au verset 10, Joël décrit ce jour, et c'est un jour d'effroi, c'est un jour terrible. Et il arrive à la fin de cette partie, au verset 11, en disant, « L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir ?» Qui? Personne, si ce n'est pour la grâce de Dieu. Ce sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur qui pourront tenir et supporter ce jour-là. Et Dieu dit, ce jour où Jésus-Christ reviendra, arrive. C'est une certitude, une promesse que Dieu a faite. Et parce que ce jour arrive, il faut s'examiner, il faut se tenir prêt. Il faut revenir à Dieu alors qu'il est encore temps. Imaginez-vous, Jésus-Christ revient. Et en tant que chrétien, nous nous sommes éloignés de Dieu. Et nous nous sommes éloignés de Dieu et dans notre éloignement, Jésus-Christ arrive. Il revient. Comment est-ce que nous allons nous ressentir à ce moment-là? Quel sera le sentiment de notre cœur? Comment Dieu va-t-il nous trouver lorsqu'il enverra son Fils chercher son Église? Nous avons le temps maintenant pour revenir vers Dieu. C'est encore le moment qui est disponible pour nous de revenir vers Dieu. Alors comprenons-nous bien, je ne parle pas de salut. Ici, ceci s'adresse à ceux qui sont déjà sauvés. ce n'est pas une question de repentance pour le salut, mais c'est une question de revenir à Dieu parce qu'on est sauvé. Et Dieu veut que son peuple revienne à lui. Notre tendance, trop souvent, c'est de nous éloigner de Dieu. Parfois, c'est de manière volontaire. On s'obstine et on dit, je veux faire telle ou telle chose. Et on va sur son chemin et on s'éloigne de Dieu en toute connaissance de cause. On lit quelque chose, on regarde quelque chose, on pense quelque chose, on se laisse entraîner par un raisonnement du monde et on sait que cela va contre la volonté de Dieu et pourtant on persiste. Parfois, c'est involontaire. C'est tout simplement parce que nous ne prêtons pas attention. Mais petit à petit, nous éloignons de Dieu dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos attitudes, dans notre conception de ce monde. Et inconsciemment, nous commençons à ressembler à ceux qui ne connaissent pas Dieu, à ceux qui n'ont pas d'espérance, à ceux qui n'attendent pas le retour de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, il faut laisser Dieu nous saisir pour nous appeler à lui, pour nous appeler à revenir vers lui. Et si nous revenons au verset 12, Dieu lance cet appel, revenez à moi de tout votre cœur. Rien de partagé ici. C'est un cœur entier que Dieu veut. Et la fin de ce verset, c'est volontairement que je l'avais laissé de côté pour le moment, mais nous y arrivons avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Vous savez, la repentance pour le péché n'est pas quelque chose de joyeux en soi. La repentance, lorsque nous avons péché, lorsque nous nous sommes éloignés de Dieu, et nous repentons, c'est douloureux. Cela fait mal. Parce que parfois, nous subissons les conséquences directes de notre péché et de notre éloignement de Dieu. Nous subissons cette tristesse d'avoir, oui, déçu Dieu, de nous être écartés de sa volonté. Bien entendu, le fait d'être pardonné, le fait que Dieu nous pardonne à chaque fois, ça c'est quelque chose de magnifique, merveilleux, glorieux. Gloire à Dieu. Mais la repentance en elle-même, elle fait mal. N'est-ce pas? Avec des jeûnes, c'est-à-dire des privations, des pleurs, des lamentations. Lorsque nous nous repentons, cela ne doit pas être à la légère. En disant, oh, mais de toutes les façons, ce n'est pas bien grave. Peut-être je me suis éloigné un peu. Oui, je me suis éloigné pendant un bon moment, mais bon, maintenant je suis revenu. Dieu, il doit être content quand même que je suis enfin revenu. Non, non, non. Cela montre qu'on n'a pas compris qu'est-ce que c'est la repentance. On n'a pas compris la gravité de notre péché, de notre éloignement. Les jeûnes, les pleurs, les lamentations, la personne qui fait cela se rend compte qu'il a fait quelque chose de grave. Et le péché devant Dieu est quelque chose de grave. Oui, Dieu accorde son pardon. Et Dieu nous aime. Gloire à Dieu. Mais la vérité reste que lorsque nous péchons, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et la repentance, la vraie repentance, oui, apporte la joie, mais n'est pas joyeuse en elle-même. Et Dieu indique ici que la vraie repentance, se rend compte de la gravité de son péché et se tourne vers Dieu. Et c'est là ce que nous voyons dans le verset 13. Verset 13, ici par Joël, Dieu continue son appel vers son peuple. Il dit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu. Déchirez vos cœurs. » Bien entendu, et vous le savez, il ne s'agit pas de se faire une incision, de s'ouvrir, de prendre son cœur réellement et puis de déchirer. Non, non, non. C'est une image, ce qu'on appelle une figure de style, une façon de dire son être tout entier. ce qui fait vraiment de nous une personne, son âme, si vous voulez, le cœur, ce centre des émotions, des sentiments. C'est ça qui doit changer, et non pas l'extérieur. Le peuple de Dieu, jusqu'à présent, s'était trop intéressé à l'extérieur. Les sacrifices à l'extérieur, mais ne s'était pas occupé de l'intérieur. Et Dieu dit, moi, ce que je regarde, c'est l'intérieur. Les hommes ne voient pas cela. L'homme voit l'extérieur. L'homme se laisse influencer par ce qu'il voit à l'extérieur. Mais Dieu, lui, il voit à l'intérieur. Et de penser que Dieu voit ce qui se passe dans votre cœur, cela doit nous affecter. Cela doit nous pousser à la repentance et à revenir vers Dieu. Dieu dit, ce n'est pas la peine d'essayer de changer l'extérieur si rien à l'intérieur ne s'est passé. Déchirer ses vêtements, une façon de montrer son deuil, qu'on était dans la tristesse. Déchirer un vêtement, c'est assez facile. Vous savez, au fond, déchirer un vêtement, ben, voilà, tout le monde peut faire cela. Mais si on déchire le vêtement, si on manifeste à l'extérieur des marques d'une repentance sans qu'il y ait un travail dans le cœur, cela ne vaut rien. Et à la fin, dans le livre de Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament, Dieu va dire, ben, j'en ai marre de vos sacrifices. J'ai marre de toutes ces choses à l'extérieur que vous faites. Il a dit à Joël, déjà, qu'il voulait que quelque chose se passe à l'intérieur. Mais finalement, plusieurs centaines d'années après, quand Malachie va écrire, ben Dieu va dire, ben, non, ce n'est pas ça qui m'intéresse. J'en ai marre. Ce que je veux, c'est un changement de cœur. Et avoir toutes les marques extérieures sans un changement de cœur ne vaut rien. Et il serait inutile d'essayer de changer à l'extérieur et de montrer quoi que ce soit à l'extérieur s'il n'y a pas de réalité intérieure. Et en tant que chrétiens, nous devons nous poser la question, ce que nous faisons à l'extérieur pour que les gens nous regardent. Le dimanche matin, on va à l'église, on prie, on met quelque chose dans les offrandes, on est là, on chante. Pourquoi nous faisons-nous cela? Parce qu'on l'a fait depuis tout petit. Parce que c'est ce que tout le monde fait. Parce qu'on apprécie être ensemble. Parce qu'on nous a dit de le faire. Ou est-ce que c'est parce que dans notre cœur, nous ressentons un vrai besoin d'adorer, de louer le Seigneur? Ne pouvons-nous conformer à l'extérieur à un ensemble de règles sans qu'il y ait un changement dans le cœur? Et Dieu dit, ben, c'est le monde à l'envers. Non, il faut commencer avec le cœur, il faut commencer avec l'intérieur. Et lorsque l'intérieur, le cœur, ce que nous sommes en réalité sera changé, à ce moment-là, nous allons pouvoir manifester à l'extérieur ce que Dieu veut. Et Dieu dit, n'inversons pas les choses, commençons avec l'intérieur. Et dans ce verset 13, oui, revenez à l'Éternel, votre Dieu. Et Joël va terminer sur ce point très, très positif, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, il se repent des maux qu'il envoie. Dieu préparait des jugements à l'encontre de son peuple. C'était quand même son peuple. Il aimait son peuple, il avait tout prévu pour lui. Mais à cause du péché de son peuple, Dieu était obligé de le juger. Mais si Israël se serait repenti, Dieu n'aurait pas eu besoin d'envoyer ses jugements. Et d'ailleurs, il va épargner Juda plus longtemps que Israël, parce que justement Juda s'est repenti à un moment donné. Et cette idée que Dieu est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Qu'est-ce que cela doit nous remplir de joie, de reconnaissance envers le Seigneur. Parce que la réalité, c'est que nous péchons. Nous sommes Israël, nous sommes comme Israël qui s'éloigne de Dieu. Nous savons que Dieu veut que nous restions près de lui. Et peut-être très souvent, nous avons le désir de rester près de Dieu. Ce désir est là, et pourtant, malgré tous nos efforts, nous nous éloignons de Dieu. Nous tombons dans le péché. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons deux choix. Soit aller plus loin dans notre péché, ou bien revenir à Dieu. Et nous ne revenons pas à Dieu parce que nous avons cette mauvaise conception que, quelque part, Dieu, il est mécontent de nous. Dieu, il en a marre. Dieu, il a déjà pardonné ce péché tant de fois que là, cette fois-ci, ce sera la foi de trop. Que nous sommes allés trop loin. Et vous qui suivez les études du mardi soir, vous savez qu'il y a deux mardis, nous avons traité de cette question. Que Dieu n'est pas comme les hommes. Les hommes, ils ont une limite à leur pardon. Ils disent, ah, là, c'est vraiment de trop. Les hommes disent parfois, pas cette fois-ci. Mais Dieu, jamais. Comme dit ce passage, Dieu est compatissant. Il compatit, il sait de quoi nous sommes faits. D'ailleurs, c'est lui qui nous a créés. Il sait que nous sommes penchés vers le péché. Que nous ne nous appuyons pas sur le Saint-Esprit et la grâce de Dieu. Et que nous nous éloignons de lui. Il sait cela. Il est compatissant, il est miséricordieux. Il ne nous donne pas ce que nous méritons. J'avais entendu cette définition de la miséricorde, ne pas recevoir ce que nous méritons. La grâce, c'est recevoir ce que nous ne méritons pas. La miséricorde, c'est ne pas recevoir ce que nous méritons. Et bien que nous méritons le jugement de Dieu à cause de notre péché, parce que Dieu est miséricordieux, en Jésus-Christ, il ne nous punit pas selon notre péché. Et cette expression que Jacques va reprendre, lent à la colère. Jacques appelle les chrétiens à être lent à la colère. Pourquoi? Ben, parce que Dieu l'est. Lent à la colère. Alors que nous nous mettons en colère si facilement, Dieu non. Oui, il va se mettre en colère. Ce passage ne dit pas que Dieu ne se met jamais en colère, mais il est lent à la colère. Il est patient. Et puis, il est riche en bonté. Riche en bonté. Il n'y a pas de limite aux bénédictions que Dieu peut donner. Dieu peut tout faire. Et parce que nous avons un tel Dieu, et parce que nous savons que Jésus-Christ revient bientôt, ça peut être aujourd'hui, n'est-il pas raisonnable, n'est-il pas juste, n'est-il pas logique pour nous, si nous sommes chrétiens, de nous assurer que nous sommes près de Dieu, que nous ne nous sommes pas éloignés de Dieu. Et si jamais nous nous rendons compte que nous nous sommes éloignés de Dieu, la chose la plus logique, ce que Dieu demande de nous, c'est de nous repentir. Et ici, Joël voulait voir son peuple revenir à Dieu. Le but de Joël, c'est justement de voir un changement dans le peuple. Ce n'était pas les paroles dans l'air. Ce n'était pas des paroles à prendre ou à laisser. Non, c'était des paroles qui devaient produire un effet dans la vie d'Israël. Et la même chose est vraie pour nous aujourd'hui. 21e siècle, ce ne sont pas des paroles dans l'air, ce ne sont pas des paroles à prendre ou à laisser. Ce ne sont pas des paroles pour les autres. Non, non, ce sont des paroles pour nous. Et de s'assurer que nous avons cette image correcte de Dieu, verset 14. Verset 13, pardon. Mais aussi, parce que Jésus-Christ revient bientôt, de nous assurer que nous sommes près de lui, de nous repentir s'il le faut, et il est probable que nous ayons besoin de le faire, nous essayons de nous donner bonne conscience, mais à la lumière de la parole et honnêtement devant Dieu, Dieu nous montre des domaines où nous avons besoin de nous repentir, de revenir vers lui. Dieu sait mettre le doigt sur une chose dans notre vie, sur un domaine, sur une parole, une pensée, une habitude que nous avons. Dieu sait faire cela par sa parole. Et ce sera différent pour chacun. Ce qui va montrer dans ma vie sera différent de ce qu'il montrera dans votre vie. Mais Dieu va nous interpeller. Saurons-nous écouter sa voix et aurons-nous la réaction juste, biblique, de revenir vers lui, ou est-ce que nous allons continuer dans notre voie? Est-ce que nous allons continuer à faire ce que nous voulons, suivre notre propre voie? Le choix est devant nous. Dieu est en train d'appeler. Cela, depuis le début du temps, Dieu est en train d'appeler les hommes vers lui. Cela n'a jamais changé. Et Dieu appelle aujourd'hui. Il appelle au salut. Si nous n'avons jamais accepté Jésus-Christ comme notre sauveur, c'est la chose la plus importante à faire. Mais si nous sommes chrétiens, Dieu nous appelle à revenir à lui, si nous nous sommes éloignés. Alors, examinons notre vie devant Dieu, plutôt laissons Dieu examiner notre vie pour nous montrer là où nous devons nous repentir, là où nous devons revenir vers Dieu, et prenons cette décision de nous approcher de Dieu pour sa vie. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous te louons pour ta parole et pour cette vérité que nous y trouvons. Seigneur, que tu puisses nous éclairer. Nous savons que ta parole est une lumière sur notre sentier et nous éclaire, Seigneur, que par ta parole puissante, tu nous montres ce qui doit changer dans notre vie, dans n'importe quel domaine que ce soit, et par ta grâce, Seigneur, que nous ayons déjà le désir de changer et revenir vers toi, et que tu nous rends capables par ton Saint-Esprit à le faire, Seigneur, que tu puisses produire ces changements en nous, que nous puissions nous fortifier, nous exhorter les uns les autres, et que tu reçois toute l'honneur et toute la gloire pour ce que tu feras dans notre vie. C'est en ton nom.